Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être venus à ce café scientifique consacré à l'horlogerie, l'horlogerie de l'arc jurassien. Mais on ne va pas parler d'horlogerie, on ne va pas parler de montres. Baselworld est là pour ça. On va s'intéresser plutôt à l'avenir, on va essayer de se projeter, et au présent que souvent on ignore, puisque le thème central de nos discussions de ce soir, ce sera les horloges atomiques. Horloges qui sont le fleuron de notre belle région. On va s'interroger aussi sur la façon dont on mesure le temps et des complications qu'on pourrait y apporter. Je pense ici aux montres mécaniques ou bien aux montres électroniques connectées qui sont de plus en plus vendues ces jours-ci. Et on va voir, pour en débattre ce soir, grâce à nos trois intervenants, qui viennent de trois domaines connexes, mais qui sont quand même un petit peu différents. Donc on va un peu suivre l'histoire d'une innovation technologique et comment elle peut finir par être appliquée au monde de l'horlogerie en partant des laboratoires. Comme c'est de coutume, je vais passer la parole directement aux intervenants qui vont se présenter un à un et dire sous quel angle ils vont aborder cette discussion de ce soir et quelles compétences ils vont mettre en avant dans cette discussion. Alors je vais commencer par le professeur Gaetano Miletti, qui est le représentant ici de laboratoire temps fréquence, et il va nous en dire plus sur les activités qu'il occupe.
Bonsoir, effectivement, donc je m'appelle Gaetano Miletti, je suis physicien de formation et puis depuis que j'ai fini mes études, donc c'est-à-dire il y a 25 ans, je travaille dans le domaine plutôt de la recherche sur les horloges atomiques, d'abord pendant une quinzaine d'années à l'Observatoire cantonal de Neuchâtel, puis depuis presque 10 ans, donc je suis au laboratoire temps fréquence de l'Université de Neuchâtel. Donc, pendant les 15 premières années, j'ai plutôt travaillé sur des horloges qui ont donné lieu à des développements industriels et spatiaux. Et puis depuis 10 ans, je travaille plutôt dans le domaine de la recherche vers les prochaines générations, on espère, d'horloges atomiques.
Merci beaucoup. On passe à l'échelon suivant, donc Fabien Drault du CSEM.
Voilà, alors bonsoir. Effectivement, là c'est vraiment une continuité parce que j'ai repris en quelque sorte la suite des travaux de Gaetano pour, à partir des développements faits à l'Observatoire cantonal de Neuchâtel. Donc une quinzaine d'années, j'ai repris ces travaux pour faire des horloges atomiques et définir le développement des horloges atomiques et les produire pour les satellites Galileo, par exemple, aluminium, ou les masers à hydrogène. Donc voilà, pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé à peaufiner, à faire voler ces horloges. Et maintenant, depuis une année, je suis au CSEM, sur le site d'Observatoire, où il y a aussi une continuité. Alors cette fois-ci, c'est dans la miniaturisation de ces horloges atomiques pour des nouvelles applications, mais également pour les montres connectées, ainsi que des mécanismes à haute performance pour les horloges mécaniques. Donc une forme de continuité d'un point de vue scientifique, mais également dans le sens de la miniaturisation de tous ces développements, ces magnifiques développements dans la région de Neuchâtel.
Alors, mon nom, c'est Kurt Stroman. Moi, je suis directeur de développement produit à Val-Fleurier, qui se trouve à Butte. Alors, contrairement à mes interlocuteurs, moi, je suis alors un pur horloger, de la montre mécanique. Nous, on développe des montres mécaniques. Et puis, j'ai travaillé aussi, alors toute ma carrière, j'ai fait dans l'horlogerie, industrie horlogère. J'ai passé par ETA, Ronda, et puis maintenant, je travaille pour le groupe Richemont. Et puis, la question va se poser aujourd'hui, peut-être, est-ce qu'on pourra éventuellement, est-ce qu'il y a des possibilités d'intégrer les montres atomiques maintenant au bras? Eh bien, ça peut être le sujet de cette discussion aujourd'hui-là. Puis on va essayer de trouver des réponses à ça.
Exactement. On va faire de la prospection. Puis on va regarder aussi ce qui est maintenant présentement déjà accessible dans le marché. Il y aura des surprises. Mais avant d'aborder plus avant le sujet des perspectives des horloges atomiques, moi, il y a une question qui me titille, et c'est vrai que ça fait longtemps que j'aborde le sujet des horloges atomiques, et je me suis aperçu, mais Dans le fond, pourquoi est-ce qu'on appelle ça atomique? Moi, je connaissais le pain atomique, souvenir d'école de recrue, mais à part ça, ça fait penser un peu à radioactivité, centrale nucléaire, oulala. Mais en fait, il n'en est rien. Et je pense qu'il y a une première mise au point que j'aimerais faire avec Gaetano Miletti, c'est pourquoi cette appellation d'atomique?
Alors, effectivement, il y a des associations de mots qui n'ont pas lieu d'être, hein, donc, notamment avec le mot nucléaire ou le mot radioactivité. Alors, on dit atomique simplement parce que dans une horloge atomique, il y a un composant qui sont, avec lequel qu'on utilise pour générer le temps ou la fréquence exacte, qui sont des atomes. Alors, par exemple, j'ai pris un de ces composants. Un type d'horloge atomique sont les horloges au rubidium. Et puis, les atomes des horloges au rubidium, donc il s'en fait plusieurs dizaines de milliers par année, hein, il s'en vend, c'est une petite cellule en verre. Hein, ça, c'est une cellule qui a été fabriquée ici à Neuchâtel, c'est passé par un verrier. Et ensuite, il y a eu une distillerie. On distille aussi du rubidium à Neuchâtel, entre autres, pour mettre une petite vapeur de métal. Le rubidium est un métal. Et les atomes qu'on ne voit pas ici, mais qui sont en suspension dans cette cellule, sont les atomes avec lesquels on interagit dans une horloge au rubidium. Alors, qu'est-ce que c'est que cette interaction? C'est quelque chose de très semblable à ce qui se passe dans un four micro-ondes, où on irradie les molécules d'eau des aliments avec un rayonnement micro-ondes de manière résonante, et on utilise ça pour chauffer les aliments. Plus proche de ce qui se passe dans les horloges atomiques, c'est ce qui se passe dans un IRM, donc c'est pareil pour la résonance magnétique. C'est tout à fait le même phénomène. On interagit de manière résonante avec les petites molécules d'eau qui composent notre corps et on utilise ce phénomène pour, en l'occurrence, faire des images. Donc il n'y a absolument rien de dangereux, rien d'explosif. On chatouille un tout petit peu les atomes dans une horloge atomique.
Alors après cette mise au point, comment est-ce que ces horloges interviennent dans la mesure du temps et en particulier dans la définition de la seconde? Alors peut-être d'abord Fabien Drou, puis après M. Miletti pour compléter.
Alors effectivement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces résonances atomiques qu'on va chatouiller, elles ont l'avantage d'être absolument identiques pour chaque atome. Donc qu'on soit sur la Lune, sur la Terre, sur Jupiter, on apprend un atome de rubidium ou de césium, on l'interroge, il nous répondra toujours de la même manière. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on va avoir une référence de temps qui est universelle. Donc, toute personne qui possède un césium fabriqué par oscilloquartz, par exemple, aura une référence de temps absolue, extrêmement stable, qui va permettre de mesurer le temps d'une manière identique où qu'on soit. Alors, ça va nous donner quelque chose de très intéressant, parce que ça va permettre, par exemple, de synchroniser tous nos réseaux de télécommunications. Actuellement, on a plus ou moins tous un téléphone mobile. Eh bien, il faut savoir que votre téléphone mobile est synchronisé par des horloges atomiques qui se trouvent dans les stations de base. Ces fameuses antennes qu'on voit, qui font tant polémique aussi parce qu'elles ont beaucoup de puissance, eh bien, elles vont être synchronisées entre elles à l'aide d'horloges atomiques produites à Neuchâtel. Alors, cette fois-ci, ça sera SpectraTime. Donc, vous voyez, on a des industriels de la région qui interagissent, finalement, sans qu'on le sache, avec les horloges atomiques de notre monde, notre quotidien. La même chose, tout le domaine de la navigation par satellite se fait grâce à des références de temps extrêmement stables qui sont à bord dans les satellites, horloge rubidium ou maser, qui vont permettre de synchroniser ces satellites de manière à pouvoir se mesurer la position par triangulation. Alors, notre quotidien est déjà affecté par ces références de temps en permanence. Et ça va même plus loin. Vous prenez par exemple le domaine bancaire, lorsqu'il y a un ordre qui est donné pour acheter des actions, eh bien, pour être sûr que cet ordre a été donné avant l'ordre d'un autre acheteur, on va y mettre un timbre de temps. Eh bien, ce timbre de temps va se référencer une fois de plus au temps atomique qui est universel pour le monde. Donc on a un ensemble d'horloges atomiques qui vont donner cette référence de temps Et cette référence de temps est utilisée au quotidien pour la navigation, pour le domaine bancaire, pour synchroniser, par exemple, les réseaux haute tension. Donc, on se rend compte que depuis 20 ou 30 ans, notre société s'appuie sur des références de temps très précises qui sont nécessaires à nos technologies. Alors, on parle du futur des montres atomiques. En réalité, il y a déjà un présent qui envahit notre société.
Peut-être Gaetano Miletti, vous pouvez compléter en précisant les précisions qu'on peut atteindre avec ces montres, avec ces horloges atomiques.
Oui, donc on utilise des chiffres un peu barbares pour caractériser nos horloges. On utilise facilement des puissances de 10. Alors on parle de 10-9, 10-10, 10-11. Alors ça parle peut-être pas tellement aux non-spécialistes. Alors je vais essayer d'exprimer ça différemment. Je vais exprimer ça comme l'erreur de temps qui pourrait s'accumuler en un jour. Donc je mesure le temps et après un jour, j'aurai une horloge parfaite, une horloge légèrement imparfaite. Quelle serait la différence entre les deux ? Alors l'exigence pour les réseaux de télécommunications, qu'a évoqué M. Drault tout à l'heure, c'est typiquement une microseconde. Il faut que l'erreur soit plus petite qu'une microseconde, donc 0,501. Et puis, par contre, pour la navigation, l'exigence pour avoir un positionnement au niveau du dessous du mètre, une erreur qui est inférieure au mètre, qui est ce qu'on veut en navigation souvent, là, c'est une nanoseconde qu'il faut. Alors typiquement, les horloges atomiques commerciales au rubidium vont garantir cette microseconde sur Terre. Les versions plus performantes spatiales vont garantir la nanoseconde. Et si maintenant on prend les meilleures horloges de laboratoire, celles qui sont vraiment utilisées pour la définition du temps, on arrive encore à 100, voire 1000 fois mieux que ça. Donc ça va chercher maintenant dans les picosecondes par jour, voire mieux.
Microseconde à la nanoseconde, c'est un facteur de 1000. Donc c'est 1000 fois plus petit encore qu'une microseconde. Merci. Je voulais savoir si il y a déjà à ce niveau-là, et là je m'adresse à Kurt Stroman, est-ce que vous utilisez, vous faites appel indirectement dans les produits que vous avez dans l'horlogerie à de l'horloge atomique cachée, je dirais, dans l'horlogerie traditionnelle où ce n'est pas encore vraiment le cas. Alors, quand on pense au positionnement, à des choses comme ça.
Alors, l'horlogerie traditionnelle, pour l'instant, je ne vais pas vous cacher, c'est que pour l'instant, quand cause atomique, c'est plutôt, c'est comme on a dit avant, on a peur, c'est la radioactivité, et puis ainsi de suite, n'est-ce pas ? Ceci dit, on se trouve quand même, quand on regarde un petit peu, et ça a été évoqué un petit peu pendant la discussion, on va aussi un petit peu l'aborder, toute la partie des montres connectées, on voit quand même une certaine tendance qu'il y a maintenant des réflexions au niveau de la rupture technologique, que ce soit maintenant au niveau des montres connectées ou bien du sujet maintenant qu'on est en train d'aborder des montres atomiques. Juste peut-être pour un comparatif, quand même savoir, puis peut-être des spécialistes vont me dire si je suis juste ou pas, mais juste pour qu'on sache un petit peu les ordres de grandeur. Dans un mouvement mécanique, on a environ 15 secondes par jour. Ça, c'est plus ou moins la précision qu'on obtient avec des montres mécaniques, qu'on a, plus ou moins 15 secondes. Aujourd'hui, quand vous regardez un petit peu les marques de luxe, ou bien des comme telles que Rolex ou bien Omega, ils essayent encore de réduire à plus ou moins 2 secondes par jour, mais vraiment, ça, c'est vraiment des cas vraiment extrêmes. Et puis versus à ça, vous allez montrer le mouvement à quartz, qui lui, là, à 0,1 seconde par jour. On voit déjà là, il y a déjà eu un grand saut au niveau de la précision, du reste. N'oublions pas, d'un point de vue historique, le canton de Neuchâtel a contribué quand même au premier développement de la montre mécanique, la montre à quartz ici à Neuchâtel, pour rappel, la bêta 1 puis bêta 2, pour dire qu'on est vraiment ici dans un domaine, on est sur un terrain propice à faire maintenant évoluer et aller dans des et de sur des nouveaux comment dire des nouvelles technologies. Et puis alors je me suis permis alors enfin peut-être me corriger mais moi j'ai calculé j'ai vu quand vous prenez des modules à horloge atomique ben vous trouvez à plus ou moins 2 millisecondes par an. Alors on voit ici nouveau aussi c'est un immense saut qui se fait au niveau de la précision. Ce qu'il faut aussi dire, ce qui est important, c'est que ça a toujours été une préoccupation principale, la précision du mouvement. Probablement, avec les horloges atomiques, on aurait résolu une fois pour toutes la précision de la montre qu'on pourrait mettre après au porté. Ceci dit, on voit aussi qu'il y a eu des immenses évolutions ces dernières années. Hein, quand on réfléchit normalement, il y a peut-être 30 ans en arrière, corrigez-moi si je suis faux, mais on aurait mis une horloge atomique dans une telle chambre. Entre-temps, ben, vous voyez, on est sur la table, c'est été miniaturisé, on voit bientôt presque plus à l'œil, il faut prendre des microscopes pour regarder ça. On voit qu'il y a quand même une forte évolution dans ce sens-là, qui prétend ou bien qui laisse prétendre qu'on pourrait peut-être une fois s'imaginer la mettre au bras, à réfléchir, à continuer à travailler sur ce sujet-là. Ça, je crois que c'est une bonne chose pour le canton de Neuchâtel, sachant qu'on va quand même dans l'innovation. On va pas se leurrer. Pour l'instant, on y est proche, mais on n'y est pas encore là où on devrait pour être vraiment pour pouvoir la mettre au bras. Et puis, mais j'y crois, même en tant que horloger traditionnel, sachant qu'on travaille aussi sur d'autres principes, hein, qui se font ici dans le canton de Châtel. Pensons à Vaucher Manufacture avec leur système Genécan. Il y a plein de systèmes qui sont maintenant en plein développement. Et pourquoi pas réfléchir à ce type de concept horloger atomique. Voilà.
Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions dans la salle, parce que ce café, c'est aussi le vôtre. Alors sinon, on va peut-être encore poursuivre la discussion sur les perspectives que couvrent ces horloges atomiques. Gaetano Miletti, dans votre laboratoire, qu'est-ce que vous produisez comme appareil au laboratoire temps fréquence et dans quel domaine sont-ils utilisés au jour d'aujourd'hui?
Alors peut-être si vous me permettez, j'aimerais juste ajouter quelques éléments par rapport à l'historique, parce que notre histoire est très riche dans le domaine de la mesure du temps, naturellement les horloges mécaniques, le développement des horloges à quartz, comme ça a été évoqué, mais aussi dans le domaine des horloges atomiques. Donc en fait, la recherche sur les horloges atomiques date d'avant que le temps soit redéfini par rapport au temps atomique, hein, donc les années 60. Déjà avant, à Neuchâtel, il y avait des activités sur les horloges atomiques, notamment dans le domaine des masers. Il y avait des développements sur un autre élément qui s'appelle le thallium à l'observatoire de Neuchâtel. Et pendant un certain temps, c'était incertain si la seconde allait être redéfinie par rapport au césium ou au thallium. Peut-être malheureusement pour nous, ça a été le césium et pas le thallium. Et donc cette volonté d'aller toujours plus loin dans la précision de la mesure du temps, je crois qu'on peut, c'est un peu une phrase bateau, mais c'est vraiment dans notre ADN. Et puis c'était clair que c'est un domaine actif à Neuchâtel depuis longtemps. Donc ce n'est pas un hasard que les seules entreprises européennes qui réalisent des horloges atomiques, non seulement sont en Suisse, mais sont à Neuchâtel dans un rayon très petit. Maintenant, par rapport à votre question, nous, on travaille, comme je l'ai dit, plutôt sur la nouvelle génération. La nouvelle génération, il y a un petit peu deux domaines d'innovation. Le premier, c'est l'introduction d'un composant qui s'appelle le laser. Donc, les lasers qu'on utilise dans les horloges atomiques, j'en ai pris un aussi, hein, c'est exactement, ils ont la même tête, si je puis dire, que les lasers qui sont utilisés dans les imprimantes laser ou les lecteurs CD, DVD, etc. Donc, c'est une petite puce qui fournit une lumière extrêmement propre, On parle de spectre extrêmement étroit. Et ça, ça permet de faire des horloges toujours meilleures parce qu'on peut bien manipuler les atomes avec ça. Et l'autre direction sur laquelle on travaille au laboratoire temps fréquence, en collaboration avec beaucoup de partenaires, parce que là encore, il y a un savoir-faire incroyable à Neuchâtel, c'est la miniaturisation. Ça a été évoqué, hein, c'est clair, le CSEM en particulier. Donc, par exemple, pour remplacer la cellule de rubidium fabriquée par un verrier, eh bien, on fait ça avec des techniques de microfabrication vers silicium, dans laquelle Neuchâtel, naturellement, est à la pointe au niveau mondial. Mais ce n'est pas que la cellule d'atomique qui fait une horloge atomique, il y a aussi toute l'électronique, là aussi on miniaturise, et là aussi c'est un domaine où Neuchâtel est très très fort. Et puis aussi, pour les questions de miniaturisation, en fait, c'est la question de la réduction de la consommation qui est importante. Et donc, il faut maîtriser la consommation thermique, en particulier pour chauffer les éléments, faire ce qu'on appelle du packaging, quelque chose qui consomme peu, mais qui en même temps est solide. Et là encore, à Neuchâtel, dans un rayon très très petit, on trouve les partenaires qui ont le know-how. Donc, nous sommes actifs au laboratoire temps fréquence dans le domaine de la miniaturisation et de l'amélioration des horloges, mais j'aimerais insister sur le fait que nous le sommes aussi grâce à des collaborations qui sont indispensables. C'est un travail absolument interdisciplinaire.
D'accord. Est-ce que, M. Drou, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cet aspect?
Alors, peut-être par rapport à ce qui a été dit, oui. Pour faire toujours un petit peu lien, parce que finalement, on s'est bien disposé. On peut faire un petit point sur la situation actuellement des développements dans ces horloges ultra-miniatures et les besoins des horlogers. Alors déjà, cette fameuse précision du millième de seconde sur une année, on peut l'avoir, et on l'a déjà tous si on le désire. Parce que lorsqu'on a notre téléphone mobile, on a l'heure, et cette heure-là, qui nous est donnée dans notre téléphone mobile, elle est déjà synchronisée sur les horloges atomiques. On peut même dire que ça fait 20 ans que n'importe qui achète une montre synchronisée a l'heure atomique. Ces montres synchronisées ont été créées dans les années 80-90. Elles reçoivent des signaux radiofréquences, et elles se synchronisent. Vous avez des réveils radiosynchronisés, mais aussi des montres. Alors, pourquoi finalement, alors qu'on pourrait avoir déjà au poignet l'heure atomique avec une horloge synchronisée, elles sont faites en Allemagne, elles sont faites les Suisses en ont fait, etc., ça n'a jamais vraiment pris. Parce que finalement, physiologiquement, mieux que la seconde, on n'a pas besoin. C'est aussi pour ça que les montres mécaniques ont toujours autant de succès, parce que ce que ça apporte, ce n'est pas juste l'heure. On le voit à une ou deux secondes près par jour, c'est extraordinaire, mais ça apporte de l'émotion. Ça apporte et ça montre son statut social. Ça a beaucoup d'autres valeurs. Une montre ne porte pas que l'heure, elle apporte énormément de valeurs. Alors, nous, en tant qu'ingénieurs, ingénieurs en microtechnique, etc., on aurait envie d'amener ces horloges atomiques, cette merveille de technologie, dans la montre et que chacun ait ça au poignet. Mais ça n'aura de sens que si les gens, d'un point de vue émotif, d'un point de vue statut social, auront envie d'avoir une montre atomique au poignet. Est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va se produire? On ne sait pas. Moi, personnellement, je ne sais encore pas le dire. Le fait qu'on y travaille est une bonne chose. Il y aura plein d'autres applications pour ces horloges ultra-miniatures. Mais est-ce que réellement, le fait de la porter au poignet est un objectif ultime pour nous, je ne sais pas, c'est émotif, c'est irrationnel, parce qu'encore une fois, le millième de seconde à l'échelle de l'homme, à l'échelle de sa journée, ça n'a pas de sens. On ne fait rien en un millième de seconde. Donc, il y a là peut-être un sujet un peu aussi de discussion, c'est, on a la technologie, on a le savoir, on a des horlogers, mais je crois que c'est le marché qui va dicter. C'est l'émotion, c'est le rapport à l'objet qu'ont les hommes, qu'ont les femmes, qu'ont chacun d'entre nous, qui fait que oui ou non, ces travaux de miniaturisation auront un sens pour cette application. Mais que je vous rassure, il y a beaucoup d'autres applications qui auront besoin de ces horloges ultra-miniatures. Je vais en évoquer une, parce qu'on a parlé des horloges qui sont aujourd'hui à disposition pour les télécoms. Il y a une application typique qui a fait qu'à un moment donné, il y a 2-3 ans, on s'est dit « Ah !» Ces miniatures, ces horloges ultra-miniatures, c'est bon, ça démarre. C'était pour la recherche pétrolifère. Alors, il y a des Américains qui ont développé ces horloges. Ils ont dépensé 100 millions de dollars pour les développer. Ça, c'est le DARPA. Il faut se rendre compte des échelles, c'est énorme. Pour faire des horloges ultra miniatures qui ne consomment que quelques dizaines de milliwatts. C'est encore beaucoup trop pour une montre, mais c'est déjà extraordinaire par rapport à 10 watts. Donc, diviser par 1000, voire 10 000 la consommation d'une telle horloge. Et ça, pour pouvoir mettre et synchroniser des microphones qu'on va laisser descendre à 1000-2000 mètres au fond des mers, dans le but de faire de la recherche pétrolifère. Le meilleur moyen de savoir si sous les fonds marins il y a du pétrole, c'est de déclencher une explosion et de mesurer avec des microphones la propagation du son. Mais pour ça, il faut que tous les microphones soient parfaitement synchronisés. Donc on imagine le bateau qui va tous les 2 km déposer un microphone au fond des mers. Il lui faut 3-4 jours pour faire tout le secteur. Si vous n'avez pas une horloge atomique qui accompagne ce senseur, ils ne seront pas synchronisés. Donc vous ne pourrez pas savoir si oui ou non, il y a effectivement du pétrole sous les fonds marins. Donc nous voilà avec une application extraordinaire. Précédemment, on mettait des horloges atomiques qui consommaient 10 watts. On devait mettre un paquet de batteries qui tenait à 2000 mètres au fond de la mer, donc qui coûtait 10 000 francs chaque paquet de batteries. Une centaine de capteurs, 10 000 francs chaque paquet de batteries, vous voyez ce que coûte une recherche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On diminue la taille des horloges, on consomme beaucoup moins, on met des batteries qui coûtent plus que 100 francs, bingo, c'est l'application. On en voit, ils s'en vendent des milliers. C'est parfait. Sauf que, depuis, il y a eu la crise du pétrole. Ça fait 2 ans que le prix du pétrole chute. Résultat, la recherche pétrolifère en haute mer n'a plus aucun sens, parce que si vous l'exploitez du pétrole en haute mer, il vous coûte plus cher que ce que vous pouvez le vendre. Donc, on avait un marché, on était sûr que ces horloges ultra-miniatures, c'était le grand boom. Eh bien, le marché nous a dit, pour des raisons complètement dehors de nos domaines d'influence, le marché a dit, ben non, il n'y en a plus besoin. Donc, nous revoilà au point de départ, puis on se tourne les horlogers, est-ce que vous ne pourriez pas profiter de nos développements? Alors, si on arrive à créer de l'émotion, si on arrive à créer cette envie, et là, peut-être je repasserai la parole, peut-être que ça va se faire. Mais le rationnel qu'on a sous nos raisonnements, il est des fois bien complexe.
Alors, quel est l'avis de l'horloger?
Oui, il a bien résumé la situation, c'est un petit peu ça. On se rappelle, dans les années 70, la montre n'avait pas la même utilité qu'elle a aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est de l'émotion. Il y a de l'émotion. Alors, moi, pour faire un petit comparatif, moi, je compare ça, c'est comme avec la mode. Il y a les longues jupes, les petites jupes, les grands décolletés, les petits décolletés. Il y a plein de choses. Et du reste, ceux qui ont été à Baselworld, ils ont bien vu comment ça se passe. C'est l'émotion. Il n'y a pas de rationnel dans tout ça. Alors, aller expliquer à quelqu'un que l'atome va aussi l'exciter, va le mettre dans des drôles d'états, ben, ça va peut-être être compliqué à faire passer le message. Mais ceci dit, comme je l'ai déjà dit avant, dans l'horlogerie actuelle, sans aller trop dans les détails, mais vous pouvez voir à gauche et à droite dans les journaux, dans les revues spécialisées, il y a effectivement une volonté d'aller rechercher autre que seulement ce balancier spirale qui nous qu'on trimballe depuis bientôt 100 ans, n'est-ce pas? On essaye, mais toujours, il est encore là, hein, il fait encore de bons services. Mais on peut dire aussi, alors aussi en dehors des montres atomiques, il y a aussi d'autres développements, comme je l'ai dit avant, Génécan, dans notre groupe, on essaye de remplacer le balancier, comme vous avez sûrement pu voir lors du SIHH sur Piaget, qui utilise maintenant une montre avec un générateur. Vous voyez, il y a plein de choses. Ceci dit, comme ça a déjà été dit, on ne sait pas où ça nous mène, d'accord? Parce que tous ces développements, c'est bien joli, Mais malheureusement, c'est comme ça, on est toujours rattrapé par, par toute cette partie économique. Ça doit être rentable, ça doit... Ben oui, il faut pouvoir vendre des produits. Et puis si vous n'arrivez pas à vendre la meilleure idée, ben, elle restera la meilleure idée, mais elle ne pourra jamais être exploitée. Alors c'est aussi cet aspect, alors, malheureusement, qu'il faut aussi prendre en considération et puis aussi regarder qu'il y a aussi une réalité économique qui fait qu'on doit... À la fin, l'idée ne suffit pas, il faut aussi savoir la vendre. Et puis si votre marché... ne le souhaite pas, et ben ça restera une bonne idée, puis voilà.
En préparant cette discussion, j'ai vu qu'il y a des gens qui y croient, hein, sur Internet, notamment la firme Hoptroff en Angleterre. Ils ont fabriqué d'abord une montre à gousset, donc c'est ces montres qu'on enfile dans la poche, qui font très 19e siècle, comme ça. Et c'est une horloge atomique dedans, c'est bourré d'électronique, en fait. Et cette horloge était épuisée, donc ils ont refait un autre modèle, l'Hoptroff 16, où ils promettent donc une dérive d'une seconde au bout de 1000 ans, je crois, hein, si j'ai bien compris. Voilà, cette dernière montre, donc j'ai Hoptroff, elle vaut à peu près 70 000 francs, 50 000 livres. Donc la valeur d'une belle voiture, somme toute relativement accessible pour quelqu'un qui veut se démarquer par une montre originale. Alors moi, la question que je me suis posée, mais bonsoir de bonsoir, pourquoi c'est pas des Suisses qui se sont lancés là-dedans? Il y a aussi une firme américaine, Batis Hawaii, qui travaille, je crois, un peu sur le même concept. Voilà, Atomic Rust Watch. Donc la montre atomique au poignet avec un atome de césium basé sur le césium. Alors voilà, j'aimerais avoir vos réactions à l'un à l'autre, puisque vous avez peut-être pu voir aussi ces produits. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, soyons clairs, je ne veux pas dire qu'il y a une part d'arnaque, mais je vous parlais des petits modules, ces fameux petits modules qui vont au fond des mers, qui ont été développés pour la recherche pétrolifère ou pour des applications militaires. L'autre application de ces petits modules, c'est clairement le militaire. Voilà, ça ressemble à peu près à ça, ces petits modules. Fabriqués par Microsemi aux États-Unis. Licence d'exportation obligatoire. Vous pouvez ne pas les vendre dans la plupart des pays du monde sans autorisation des Américains. Donc, quand ils vous promettent une montre, vous devez déjà remplir un formulaire d'autorisation judiciaire pour pouvoir... vous commettez que vous n'allez jamais aller en Iran ou dans des pays comme la Libye avec. Et donc, en réalité, ces horlogers ne font rien d'autre qu'intégrer ce petit module qui vous donne une fréquence, diviser la fréquence, et après, il l'habille. Le petit module coûte 1500 francs. Voilà. Donc, je dirais que c'est en beaucoup de marketing, et puis c'est bien qu'ils le fassent, parce que ça nous permettra de voir s'il y a une réaction. Mais... ce qu'il faut aussi savoir, c'est que là où ils arnaquent un tout petit peu le monde, c'est que c'est vrai qu'on aurait la seconde sur 1000 ans si vous le gardiez tout le temps on, mais il consomme 100 milliwatts. Donc, en réalité, vous avez un quartz qui fonctionne, et de temps en temps, la montre va activer son module atomique, resynchroniser le quartz, et continuer à fonctionner. Seulement, si vous ne la gardez pas on en permanence, une horloge atomique, ben, elle perd un facteur 100 de sa stabilité. Donc, au moment où l'enclencher, si vous ne la laissez pas pendant une semaine, deux semaines, elle ne va pas avoir cette stabilité. Donc, on va dire que c'est des beaux produits, c'est un coup de cœur, l'idée est là. Mais d'un point de vue ingénieur, personnellement, j'ai le sentiment qu'il y a un petit peu d'esbrouf. Voilà, mais ça, c'est l'ingénieur qui parle.
Peut-être Monsieur Stroman.
C'est bien que vous le dites, comme ça, ça m'évite de dire ça aussi. Mais comment dire? Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu. Bon, je vais pas utiliser le mot arnaque, mais ça va aussi un petit peu dans ce sens-là. C'est que. Alors moi, je garde espérance. Hein. Moi, je suis un développeur. Je reste un esprit positif. Je vais y croire jusqu'au dernier, mais. La réalité, elle est juste. Hein, et puis après, il y a cet autre problème. Vous voyez, quand vous regardez, quand vous allez à Baselworld, on vous montre le mouvement, mais très vite, on vous montre aussi l'arrière du mouvement, avec tous ces petits leviers polis est mis en place avec amour, et vous pouvez expliquer qu'il y a eu l'horloger qui a passé une semaine ou même des mois à construire le mouvement, démontre qu'il y a de la passion qui est dans le mouvement. Et malheureusement, si vous avez ce type de produit, ben, il y a un petit peu moins de ça. Hein. D'accord ?
Alors, oui, monsieur, il y a une question dans la salle. Attendez, parce que comme c'est enregistré et que ça va passer pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de venir ici, ça va passer sur Internet, sur nos pages web. Voilà. Donc, merci de prendre le micro.
Dominique Schnevely. Je voulais juste faire une remarque concernant tout cet aspect-là. Monsieur Drault, vous avez dit que ce dont on a besoin dans l'horlogerie, hein, c'est l'émotion. D'accord. Alors, je pense qu'il y a un deuxième facteur, c'est peut-être sur ce facteur-là qu'on peut travailler. En plus de l'émotion, il y a aussi le facteur exclusivité qui est très important. Hein. Notamment dans l'horlogerie du luxe, ce qu'on cherche, c'est l'exclusivité. Et ces inventions dont M. Stroman a parlé, Genkan, etc., ou bien chez Piaget, la génératrice synchronisée sur un quartz, là on parle de l'exclusivité. C'est aussi l'exclusivité qui permet d'obtenir des prix supérieurs dans le luxe. C'est aussi ce qui explique ce trend vers les mouvements de manufacture. Hein. Chaque horloger dans le luxe veut avoir son propre mouvement pour être exclusif. Alors peut-être qu'on peut travailler là-dessus. Peut-être que l'horloge atomique peut faire valoir une exclusivité. Ensuite, c'est le travail des gens du marketing d'aller vendre ça. Il faudra qu'ils fassent une sorte de changement de paradigme. Au lieu de mettre en avant l'amour avec lequel on a poli les tranches de telle et telle pièce, il faudra peut-être mettre en avant l'amour avec lequel le physicien a travaillé sur ses horloges atomiques. Ceci pour mettre en avant cette exclusivité. C'est la remarque que je voulais faire.
Alors, des remarques, peut-être. Le physicien qui travaille avec amour, oui, bon, ses horloges au rubidium.
Bon, on a quand même pas mal de recul maintenant par rapport aux recherches qui ont été effectuées, les découvertes qui ont été effectuées, qui sont utilisées dans une horloge atomique. J'ai mentionné tout à l'heure l'imagerie par résonance magnétique. La résonance magnétique, c'est des phénomènes qui ont été découverts il y a presque 100 ans. Et ceux qui les ont découverts n'avaient aucune idée des applications que ça allait donner. Et donc nous, disons là, j'ai ma casquette de chercheur et aussi d'éducateur. Donc nous faisons des thèses de doctorat, des recherches, dans un domaine passionnant, puisqu'on joue avec on interagit avec les atomes de manière résonante et on développe et on découvre plein de phénomènes de précision. C'est de la métrologie de précision pour observer tous ces phénomènes. Et là aussi, même si ce n'est pas directement la mesure du temps, ben, je me sens vraiment être au cœur de l'esprit de la région au niveau de la précision. Maintenant, et donc on est assez patient, on a confiance que notre recherche est une recherche de valeur et il faut du temps entre la découverte, la recherche et le produit. Aujourd'hui, on est en train d'envoyer dans l'espace les horloges Galileo, hein, elles sont presque toutes là-haut. On a commencé à y travailler dans les années 80 à Neuchâtel. Donc des fois, ben, il faut attendre un petit peu de temps. Maintenant, ceci dit, j'ai aussi une casquette, naturellement, ça m'importe quand même que mon travail aboutisse aussi à des produits et à des places de travail, hein, disons-le, par rapport aux montres connectées. Alors, je comprends bien qu'aujourd'hui, les horloges atomiques ne sont pas indispensables par rapport aux besoins pour donner l'heure exacte. Mais qu'en est-il des autres fonctionnalités des montres connectées ? Parce que maintenant, les montres connectées, si je comprends bien, elles ne vont pas seulement servir à donner l'heure exacte, mais faire d'autres opérations. Et dès qu'on parle de réseau et autres, hein, comme l'a dit M. Drault, on a besoin du temps, on a besoin du temps certifié. Et on n'a pas seulement besoin du temps certifié, on a aussi d'une certaine autonomie. Alors c'est vrai, on peut avoir un oscillateur qui est, on dit, asservi, hein, qui est calé grâce au GPS, mais le signal GPS, il est très faible. il n'est pas partout accessible. Et non seulement il peut être brouillé, mais il peut être aussi simulé et il peut amener à des véritables escroqueries. Donc le fait d'avoir une montre qui donne la stabilité requise pour mon opération, donc autre que mesurer du temps, de manière autonome, peut jouer un rôle. Peut-être pas demain ou dans un an, mais peut-être dans 10 ans. Alors, je ne sais pas quel est le point de vue d'un horloger par rapport à ça.
Juste une précision. Galileo, c'est le système de positionnement européen qui est en train de se mettre en place pour faire concurrence au GPS qui reste toujours américain. Et militaire, voilà. Je vous laisse la parole, monsieur Strumann.
Oui, alors c'est comme j'ai déjà dit, c'est oui, ok, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans 10 ans, hein, d'accord. Et puis, bien volontiers, alors, sachez que ça ne dépend pas de moi qui ne veux pas introduire des montres atomiques dans les mouvements pour le groupe dans lequel je travaille, hein, bien entendu, ça me ferait bien grand plaisir. Après, il y a aussi peut-être aussi toujours cet aspect, il faut bien savoir aussi que les horlogers, surtout suisses, ne sont pas toujours les plus faciles à convaincre de passer à de nouvelles technologies. Hein, ça, il ne faut pas se cacher aussi. Je vous rappelle quand même, dans les années 70, et il y en a parmi vous qui ont peut-être bien passé cette chose-là, on a eu quand même une crise et ce que je veux dire avec ça, c'est que déjà, de nous avoir rassemblés ici autour d'une table et d'en discuter, et puis en rigolant, c'est déjà pas bien. C'est déjà bien, c'est déjà très très bien. C'est déjà très très bien. Et ça ouvre certaines questions sur les sujets. Il faut aussi savoir que c'est comme dans toutes choses qu'on voit aussi, hein, dans toutes les autres technologies qu'on voit. Il y a des technologies imaginées, pour vous donner un exemple, toute l'industrie de la photographie, ben, elle a été révolutionnée maintenant avec des iPhones. Vous n'utilisez plus votre appareil. Ben, tous vos appareils Leica et puis Ilford, ben, ça n'existe plus. Hein, Kodak, ça a carrément disparu. Et ben, pour nous éviter ces problématiques qu'on a eues dans les années 70, parce que ben, on était peut-être un petit peu... bien, on croyait que c'était, on avait mangé la sagesse à la petite cuillère. Eh ben, peut-être, il faudra se reposer des questions. C'est pour ça que je suis pas opposé. Je suis pas opposé à toute cette nouvelle technologie. Bien au contraire. Et aussi nous, dans notre groupe, on observe tout concept qui pourrait être intéressant, que ça soit, comme ça a été dit, et je le répète, au niveau de la mécanique, que ça soit des on pourrait dire toute la partie montre atomique, ou bien j'ai même lu que maintenant il y a même des montres nucléaires, hein, il y a plein de choses qui se mettent en place, hein, des choses et ça, bien entendu, il faut les suivre, on les suit de près et on réfléchit. Alors, je peux vous affirmer, vous et vraiment vous réconforter que nous les même les horlogers type de luxe, hein, en réfléchissant aussi à comment on pourrait utiliser ces technologies-là pour répondre à la question comment on pourrait introduire ces technologies, ces nouvelles technologies dans le luxe. Ben, allez regarder le modèle Piaget Imperador. Là, on a essayé de vraiment de combiner la nouvelle technologie. Hein, de la génératrice avec le quartz, mais aussi avec le luxe, avec le design, d'y introduire ces deux aspects-là. Ceci dit, on ne va aussi pas se leurrer. On en a fait environ 100 mouvements. Pour l'instant, ce n'est pas le Graal. Hein. Ça se vend, mais ça ne se vend pas comme des petits pains. D'accord ? Ceci dit, continuons de rêver, continuons de discuter. Et puis en plus, ça c'est extraordinaire. Ici, on peut en discuter et puis faire passer la passion. Un autre aspect qui a aussi été évoqué, et ça vous paraît peut-être bizarre que ça vienne de moi, industriel, mais moi, ce qui est très important, c'est aussi tous ces développements qui sont en train de se faire, que ce soit au CSM ou bien que ce soit dans les industries horlogères. Eh ben,
c'est de l'innovation. C'est important aussi pour l'avenir, c'est important pour les jeunes, c'est important que nos jeunes soient bien formés, qu'après ils puissent reprendre la relève, et puis qu'ils puissent continuer à créer et à faire de l'innovation, parce que c'est ça la langue qui va faire que notre industrie, surtout dans le canton de Neuchâtel, qui va donner une perspective dans l'avenir. Et puis pour nous éviter, bon, sans vraiment de faire d'un grand drame, bien qu'on est nouveau dans une période difficile, pour nous éviter ce qui avait été fait dans les années 70, pour que ça n'arrive pas, et à travers de produits de ce type-là, comme on voit, puis maintenant on en discute de la montre atomique, ben pourquoi pas dans 5 ans, on en verra peut-être une marque qui va utiliser ce système-là. Déjà seulement pour faire le buzz. Hein, souvent, les marques ont aussi besoin pour se faire remarquer. Il ne faut pas en faire 10 millions. Ça suffit déjà si vous en faites 100. Ça fait parler la marque. Et pourquoi pas, ben, une fois qu'on aura résolu ce problème de consommation et peut-être de miniaturisation, ben, pourquoi pas, une fois, se revoir au SIHH ou bien à Baselworld avec un produit de ce type-là. Ici, c'est aussi le but de cette rencontre, c'est un petit peu aussi de dédramatiser la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est laissons un petit peu rêver, hein, rêver comment l'avenir pourrait être. Et puis, moi, je suis très confiant dans l'avenir. Hein, il y a plein de sujets qui sont très intéressants. Ah, et puis, bien entendu, ben, on est dans le sujet de la montre atomique. Bien sûr, ça aussi, ça va jouer un grand rôle.
Vous voulez rajouter ? Il y a une question dans la salle, alors. Voilà.
Oui. Chabazo, vous parlez de rêver, de montre au poignet, c'était très intéressant. Donc, ça doit véhiculer une valeur, un statut social, être exclusif. Mais quand M. Minetti nous parle de ce problème de consommation, finalement, c'est une fonction de contrainte que celui qui crée le produit doit résoudre. Mais ce n'est pas une fonction qui est liée à l'utilisateur et qui pourrait en bénéficier. Alors comment on arrive à une plus-value amenée par ces montres atomiques ?
Alors absolument, on est le cœur du sujet si on parle que de la montre atomique. Maintenant, si on parle de montres connectées, on parle de ces fameuses Apple Watch et autres, l'idée de mettre beaucoup plus de fonctions dans la montre, on arrive à une autre logique où typiquement l'utilisateur accepte de recharger sa montre tous les jours. Ce qui était inimaginable pour un horloger qui se bat depuis 50 ans pour que sa montre ait plus d'autonomie, que du jour au lendemain, monsieur et madame tout le monde acceptent de devoir recharger sa montre tous les jours. Pourquoi diable on a inventé la montre automatique ? Pourquoi on a fait des montres à quartz avec des piles et on s'est battu mais comme des diables pour faire baisser cette consommation ? Et d'un coup, on nous dit, non, on accepte. Alors voilà, ça, c'est un paradigme qui a changé. Ce n'est pas certain que ça perdure. Et surtout pas comme gardien de temps, parce que vous avez une horloge atomique, magnifique, elle tient une seconde, soyons raisonnables, sur une année. Vous oubliez de la charger, ben vous avez perdu l'heure. Bon, donc c'est une contrainte qui, si on réfléchit qu'en fonction d'heure et qu'on veut une montre qui n'en donne que l'heure, ça ne va pas le faire. Bon. Donc, pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir besoin d'une horloge atomique au poignet ou dans son téléphone mobile ou dans sa tablette ou dans son ordinateur ? Ça, c'est la question qu'a soulevée M. Minetti. C'est que probablement, avant de voir une horloge atomique, un de ces petits modules atomiques, plus petit que ça et qui consomme moins, c'est ce à quoi on travaille, dans une montre, on va probablement le voir dans notre téléphone mobile, dans notre tablette ou dans notre ordinateur. Mais là, malheureusement, je dois le dire, c'est pas des personnes d'ancienne génération comme nous sommes qui allons imaginer ces produits, qui allons imaginer les applications. Je crois qu'il faut être né dedans. J'attends beaucoup, et c'est aussi une remarque qui a été faite, de la nouvelle génération de nous dire, voyez, vous avez là un gardien de temps extraordinaire. Les militaires font des choses incroyables avec. Vous, jeunes ingénieurs, jeunes physiciens, qu'est-ce que vous pouvez m'inventer dans la vie civile qui va faire qu'on aura une nouvelle application, quelque chose de mieux. Parce que nous, on a tout notre historique. On peut aider pour gérer des projets, on peut aider pour minimiser les risques, on peut aider à mettre en place une société, etc. Mais à un moment donné, l'innovation, elle viendra avec des nouvelles idées, d'une nouvelle génération qui dira, possédant cette brique de base, qu'est-ce que je peux faire avec ? Je peux peut-être sécuriser mes communications entre mes différents éléments, que plus personne puisse les intercepter. On sait à quel point c'est sensible maintenant. Je peux peut-être sécuriser mes paiements bancaires d'une manière absolue. Si j'arrive à me synchroniser avec le récepteur et que personne ne peut intercepter ma communication, voilà. Mais ça, je dois le dire, il faudra que la nouvelle génération perce avec ses idées et vienne nous bousculer. Parce que nous, on en a encore à l'idée qu'on va simplement mettre ça dans une montre. Mais tout à fait, c'est pas ça, il y aura autre chose. Et les étapes, ben, ça passera peut-être par la tablette, ça passera peut-être par le PC avant d'être dans la montre, ou alors quelqu'un aura l'idée géniale, et puis ça passera directement dans la montre. Mais le quartz a fait le même chemin. Le quartz a d'abord été utile pour les militaires, pour synchroniser les radars, a été utile pour les télécommunications, les premières radios sécurisées militaires et puis avec les utiliser des quartz, et pas à pas, en 10-20 ans, c'est arrivé dans la montre. Donc probablement qu'on va avoir un même cheminement. Ça, c'est un peu mon feeling. Mais pour ça, il faut qu'on travaille dur, parce que si le but ultime est d'avoir portable sur soi une montre atomique et qu'elle apportera des nouvelles fonctions, eh bien, il faut qu'on s'y prépare, parce que 20 ou 30 ans de travail pour y arriver. Donc si on oublie, on ne sera pas dans la course. Voilà.
Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Marc, encore ? Parce que, Fabien Drou, je voudrais continuer sur votre lancée. Alors, effectivement, comment vont évoluer nos gadgets qu'on porte sur nous, ces téléphones, ces tablettes, etc. Jean-Claude Biver, qu'on ne présente pas, mais qui est quand même président de la division montre chez LVMH, s'exprimait l'autre jour à la radio et faisait, comme à son habitude, une petite remarque provocative. Il disait que... Moi, je mise sur la disparition des smartphones au profit des smartwatches, des montres intelligentes. Vous n'aurez plus de smartphone dans votre poche, parce que qu'est-ce que c'est que ces trucs ? On a un machin grand comme ça dans la poche, on a une montre connectée qui doit se connecter à lui pour ensuite avoir des informations au consommateur final. Non, moi, je dis que tout sera au poignet. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette remarque ? Parce que c'est vrai que par rapport aux objets portables qu'on a dans notre quotidien, les jeunes ne portent plus de montre au poignet, ils ont leur téléphone portable. Le téléphone portable devenait de plus en plus petit, puis tout d'un coup, il se met à grandir. Moi, j'ai eu un mal fou à retrouver un téléphone qui est la taille de ma poche, quoi, parce que on a l'impression de se promener avec une tablette maintenant. Donc, Que fait le marketing maintenant ? Où est-ce qu'on en est rapport à nos objets portables ? Et puis c'est peut-être une question qu'on pourra prolonger.
J'ai peut-être juste une petite remarque là-dessus. Il y a une raison pour laquelle la montre a un énorme avantage par rapport au téléphone mobile. C'est que vous l'avez en contact avec vous. Donc physiologiquement, vous pouvez capter le pouls, vous pouvez capter l'hypoglycémie, vous pouvez capter plein de choses. Un téléphone mobile n'a pas cet avantage. Donc une piste de développement pour les horloges, les montres connectées ou intelligentes ou avec multifonctions, c'est le fait que contrairement au téléphone mobile, vous l'avez en contact avec votre corps. Je vous donne un exemple d'application. Il y a une petite start-up qui s'est faite à Zurich avec un développement qui a été fait ici dans la région pour pouvoir mesurer le cycle de fertilité des femmes. Vous ne pourrez jamais le faire avec un smartphone, mais c'est parce qu'il est en contact avec la peau de la personne que c'est possible. Donc ça, c'est juste pour dire, quand M. Biver dit ça, derrière, il y a un rationnel. La montre apporte quelque chose de plus, c'est le contact physique avec la personne. Et ça, ça pourra amener des fonctions que ne pourra jamais faire peut-être le smartphone.
Peut-être, ce que j'aimerais aussi rajouter à ça, c'est que, qu'est-ce qui nous importe le plus ? Pensez-y une fois. Ce qui nous importe le plus aujourd'hui, c'est quoi ? La vie éternelle, n'est-ce pas ? On veut tous vivre éternellement. Pour ça, il faut quoi ? Il faut avoir un train de vie qui soit contrôlé, géré par, bien entendu, une montre connectée. Et c'est ça, et c'est peut-être aussi cette voie-là. Quand, vous voyez, moi, j'en porte une. Je peux savoir, elle me dit quand je dois bouger, elle me dit quand je devrais me lever, elle dit combien d'heures je dors, n'est-ce pas ? Combien de calories je brûle ? C'est tout des petites choses comme ça. Alors, ça donne l'impression que c'est pas important, mais croyez-moi, il y a des gens qui sont addicts à ce type de produit-là et ils vivent au rythme de leur montre et qui leur dit qu'est-ce qu'il faut faire et puis quand est-ce qu'il faut pas faire des choses. Alors, cet aspect-là pourrait, bien entendu, rendre la smartwatch très intéressante de ce point de vue-là. Alors, aussi, vous voyez, maintenant, c'est comme je viens de dire, c'est qu'on est en pleine, on est en plein, ça, il y a en plein changement, vous voyez, on se repose des questions. Alors, vous voyez, j'ai découvert, horloger traditionnel qui connaît le spiral, qui n'a rien d'autre connu que le spiral, commence aussi de prendre plaisir à l'iWatch. Hein. J'ose même pas le dire, je fais partie du groupe Richemont, je devrais porter une montre Piaget ou une montre Montblanc. Sachez une chose, c'est que c'est très pratique. C'est très pratique que, par exemple, j'ai découvert, hein, tout par hasard, que quand on conduit et vous avez un téléphone qui rentre, eh ben, vous pouvez parler à votre montre et puis vous pouvez causer avec elle, hein, c'est-à-dire vous pouvez répondre et puis ça marche sans devoir utiliser prendre l'iPhone ici dans les mains. Alors, c'est plein de petites choses comme ça qui vont peut-être, on ne sait pas, qui vont peut-être définir le succès de ces montres connectées. Observons, et c'est ça c'est pour ça que je suis aussi horloger, je trouve fantastique ce monde. Pourquoi ? Parce que il y a plein de choses qui sont maintenant en mouvement, il y a plein de choses qui se passent. On ne sait pas tout à fait, hein, il y a une incertitude, on ne sait pas dans quelle direction ça va. C'est ça aussi, hein, la vie industrielle. Par contre, et là je répète aussi, il faut être vigilant. Ça veut dire quoi ? Il faut avoir un œil ouvert, il faut, comme M. Doudreau l'a dit, il faut avoir les jeunes aussi. Les jeunes ont des bonnes idées. On est étonné. Hein. Les jeunes, ce n'est pas seulement la disco et puis les tablettes et puis jouer aux jeux. Souvent, c'est ceux-là qui ont des bonnes idées. Et puis, il faut les écouter. Et ça, c'est peut-être aussi, il faut le dire. Bon, moi, je suis plutôt jeune aussi, mais c'est un complément entre les jeunes et puis ceux qui sont un petit peu de la bouteille. Et surtout avec cet esprit. Alors c'est ça que je trouve extraordinaire. Hein. Dans ce canton, ici, il y a un esprit qui règne et on est prédit hein, pour faire toutes ces choses-là, pour peut-être aller au-delà de maintenant de ce qu'on cause, de la montre atomique, ou bien peut-être demain, ça va être la montre nucléaire. Hein. J'ai appris qu'il y a même la montre nucléaire maintenant qui serait encore mieux que la montre atomique, hein. Et puis encore plus précise. Et puis peut-être ça ne sera pas la montre connecté, ça sera peut-être encore autre chose dont on ne sait même pas encore, on n'en a même pas encore l'idée. Alors voilà, moi je prédis que les prochains 10 ans, ça va être fantastique au niveau de l'innovation parce que tout est ouvert et il y aura plein de choses qui vont se faire et puis laissons-nous surprendre.
Justement, je me disais pourquoi il y avait cet intermédiaire des premières montres connectées, pourquoi elles avaient besoin d'un smartphone à côté. Pourquoi il n'y a pas une. Est-ce que ça existe ou c'est juste l'iWatch qui est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il faut automatiquement avoir le smartphone qui parle à la montre connectée? Pourquoi on ne peut pas avoir juste une montre connectée et c'est tout? Et se passer complètement du smartphone?
Vous retombez dans le problème de la consommation. Communiquer avec un réseau sans fil, ça demande une batterie conséquente. Donc on est de nouveau face à ce fameux problème de consommation. Donc quand on regarde le volume d'une batterie dans un tel téléphone, il doit représenter à peu près un tiers du volume. Imaginez ça au poignet. Et à recharger tous les jours, non. Donc voilà. Donc la montre qui fait fonction directement de téléphone dans le groupe Swatch, elle a déjà été faite il y a plus de 10 ans. Plus que ça, même. Plus alors, que ça.
Voilà.
Il y a environ 25 ans.
25.
Quand j'ai eu mon diplôme, c'était déjà un développement envisagé dans le groupe.
Vous pouvez en dire plus, monsieur ?
Non. Désolé, ça reste confidentiel, ce genre de choses. Hein. Je ne travaille plus dans ce groupe-là. Hein,
d'accord.
Donc on voit, mais le problème toujours le même, la consommation. Vous avez besoin de centaines de milliwatts pour communiquer, voire plusieurs watts. Donc, la réserve de batterie, elle est ce qu'elle est. C'est ce qui freine la voiture électrique, c'est ce qui freine énormément d'applications.
Marc. Oui, madame. Attendez. Madame, ici, devant. Il y a le micro qui varie.
Monsieur Drault a parlé tout à l'heure de l'avantage d'avoir la montre en contact avec la peau, donc comme avantage. Mais que pensez-vous du désavantage qu'évoquent certains, qui est les ondes, des problèmes avec l'électrosmog, etc.
Alors,
en contact avec la peau.
Oui, oui, tout à fait. On peut imaginer effectivement d'avoir quelques risques à ce niveau-là. Et là, on va revenir au niveau de l'énergie. Justement, une montre avec sa petite pile va pouvoir générer des ondes avec une puissance extrêmement faible. Quand on parle ici de nos horloges atomiques, les niveaux de puissance qui sont injectés dans les atomes, c'est absolument infime. Notre cerveau génère des ondes qui sont tout à fait comparables. Donc, je dirais, tant que la montre se contentera d'avoir des petites piles, on risque rien, ça sera vraiment rien. Le téléphone mobile, justement, qui est en contact permanent avec les antennes, lui va émettre 1000 fois plus, 10 000 fois plus. On est vraiment dans des ordres de grandeur. Donc, quand je fais ça avec mon téléphone mobile en communication, je m'irradie, effectivement. Et là, les études, ça se discute. Certains prétendent qu'il n'y a aucun effet, d'autres disent qu'il y a quelques effets. Donc, si je reporte la fonction du téléphone dans la montre, on en rediscutera. Mais j'aurai d'abord à résoudre le problème de la puissance. Alors, tant qu'on a une montre avec sa petite énergie... Alors, tout le problème, effectivement, comment réussir à communiquer avec moins de puissance ? Ça, alors, si on arrive, on aura beaucoup d'avantages. Mais la physique est ce qu'elle est. Et pour l'instant, les limites qu'on connaît font qu'on a besoin d'énergie pour communiquer.
Oui, allez-y. Je n'ai pas besoin d'appareil. Non, non. Non, mais c'est pour enregistrer.
Plutôt que essayer de... trouver un iPhone ou un smartphone qui va dans la poche, vous devriez peut-être chercher un fabricant de pantalons qui fait des poches assez grandes.
C'est juste pour rigoler un peu.
C'est vrai. C'est vrai qu'il faudrait prendre le problème par un autre bout, monsieur.
Christian Chory, j'ai une question. L'horloge des microsémis, c'est basé un peu sur les horloges macroscopiques, mais miniaturisées avec des technologies et des microfabrications. Mais ça reste encore une horloge classique avec rubidium. Est-ce que pour encore réduire la taille et la consommation, il y a des recherches de d'autres types atomiques qui utilisent peut-être directement l'intégration dans les silices qui, dans l'avenir, pourraient faire une horloge atomique beaucoup plus petite avec une consommation beaucoup plus bas?
Alors peut-être une question aux physiciens de base fondamentalistes. Fondamental, pardon. Le lapsus. Recherche fondamentale.
Alors il y a des idées, des tentatives, mais qui sont plutôt théoriques pour l'instant, puisqu'on a besoin d'isoler quand même les atomes le plus possible du monde extérieur, pour qu'ils ne soient justement pas perturbés par le monde extérieur. Donc c'est vrai que pour l'instant, on est en train de miniaturiser chaque composant de la montre, comme par exemple la cellule, avec les connaissances qu'on a, le laser, l'électronique, etc. Mais là aussi, je pense qu'on a besoin de jeûne, comme pour tout le reste, pour venir avec des idées complètement nouvelles et aborder le problème complètement différemment. Mais sur les recherches un petit peu à la pointe, hein, puisque je profite d'avoir la parole, j'aimerais préciser que pour une horloge atomique, dans une horloge atomique, on utilise les atomes parce qu'ils sont insensibles au monde extérieur, pour stabiliser la fréquence d'un quartz. C'est ça une horloge atomique, c'est un quartz dont la fréquence est stabilisée grâce aux atomes, et on exploite là l'insensibilité des atomes. Mais en fait, il existe des instruments atomiques très semblables aux horloges atomiques où cette fois on utilise la sensibilité des atomes pour mesurer, par exemple, le champ magnétique, par exemple, les champs électromagnétiques créés par notre cerveau. Et donc là, ce n'est pas qu'on perturbe notre corps avec des ondes, mais on utilise les ondes de notre corps pour interagir avec les atomes et comprendre comment notre corps fonctionne. Donc j'abonde complètement dans ce qui a été dit précédemment concernant la détection de ce qui se passe dans notre corps. En utilisant la montre, mais en utilisant aussi d'autres appareils que nous portons, et pour contrôler notre santé, par exemple. Et là, la recherche qu'on fait, y compris au laboratoire Temps Fréquence, non seulement c'est des applications des horloges que l'on ne connaît pas encore, mais c'est des applications de petits bouts d'horloge, par exemple la cellule ou le laser, pour des applications qu'on ne connaît pas encore. Donc c'est un peu ça la recherche de base qu'on doit continuer à faire dans la région. Ce n'est pas seulement exploiter ce qu'on sait faire pour mesurer le temps précisément, mais vraiment exploiter ce qu'on sait faire tout court.
C'est assez fascinant. Donc il y a tout le domaine de la santé qui s'ouvre avec ce genre de perspective. Monsieur Drault, vous voulez peut-être ajouter quelque chose par rapport à mettre les choses un peu sans dessus dessous, hein. C'est un peu ça, c'est qu'on reprend la montre, on redistribue les ingrédients et puis on crée de la nouvelle cuisine, hein.
C'est le mot magique, peut-être, la cuisine. On peut en parler. On a un exemple très similaire à ce qu'on arrive à nos horlogers, c'est la grande cuisine française. Prenez la grande cuisine française des années 80, Leblanc, Bocuse, hein, qui finalement travaillait que sur la tradition. Et pourquoi est-ce qu'on est prêt à payer un repas 10 ou 100 fois plus cher que ce qu'on fait à la maison? C'est pour l'émotion. On revient à cette notion aussi de statut social. Je suis allé chez Bocuse. Bien. Eh bien, depuis à peu près l'an 2000, tous ces grands chefs se sont vus complètement bousculés par une nouvelle génération qu'on fait de la cuisine moléculaire, qu'on réinventé les saveurs, qu'on travaillé avec des steamers, qu'on complètement repensé la grande cuisine. Revisité, tel était le terme. Eh bien, il y a eu un petit mot là qui m'a déclenché une petite réflexion. Je me demande si ce qui est en train d'arriver à notre industrie, à nos horlogers, si ce n'est pas un petit peu ça. On est sur une grande tradition que personne ne peut décrier, c'est extraordinaire. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des petits rigolos de la Silicon Valley et d'ici aussi qui sont en train de complètement casser ces codes. Et peut-être que la valorisation du statut social, la valorisation ou l'émotion générée va passer par d'autres technologies, par d'autres modes de fonction, par d'autres saveurs. Peut-être que notre horloge atomique miniature en fera partie, peut-être pas. Je ne sais encore pas le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-être ce parallèle peut nous pousser à quelques réflexions.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, j'ai l'impression que c'est comme si on travaillait ensemble.
Fantastique.
Parce que je suis entièrement d'accord avec lui. C'est comme j'ai dit avant, c'est... On est à un tournant. Hein, on est à un tournant dans l'industrie et du reste. Je ressors l'exemple de Baselworld. Vous voyez qu'il y a des choses qui se passent. Hein, on sait. Et je vous cache pas qu'il y a aussi une grande insécurité. Hein, on ne sait pas. On s'observe mutuellement. Je ne vous cache pas qu'on regarde maintenant un petit peu qu'est-ce qui se passe avec Apple, on regarde un petit peu ce qui se passe avec Samsung. On est hésitant, ça c'est dangereux hein, quand on est hésitant. Il faut avoir souvent, et ça c'est le problème, c'est comme je dis toujours, c'est tous ces grands groupes, que ce soit Swatch Group ou bien que ce soit le groupe Richemont, ou bien d'autres groupes, il faut avoir, comme on dit, dans les tiroirs, il faut avoir des projets au cas où, et puis être prêt. Au cas où, si ça devrait s'avérer des choses intéressantes, ben, il faudrait être prêt. Et ça bien naturellement, ça passe, ben, je me répète, hein, mais c'est vraiment ça. C'est passé par l'innovation, c'est passé par la créativité,
Et malheureusement, là aussi, je me répète, nous, les horlogers suisses, on reste bien souvent sur nos acquis. Hein. Tout va bien, alors continuons comme ça. Ben non, il faut se reposer des questions, il faut se remettre en question. Il faut travailler ces sujets-là. Alors, je peux vous rassurer, j'essaie de convaincre mes chefs. Hein. Ce n'est pas toujours facile, convaincre ses chefs, surtout quand ça coûte. Mais sachez que, oui, on observe de près. Pour l'instant, on ne va pas se leurrer aussi, l'industrie, on a eu une petite baisse, hein, ça se ressent, nous, tout le monde le ressent. Mais c'est surtout dans ces moments-là où il faut être vigilant, il faut être prêt et observer bien le marché. Et c'est ce qu'on fait. Alors, je vous ai en cause de la montre atomique, mais on pourrait causer de plein d'autres choses, que ce soit de repenser l'échappement ou bien de revoir est-ce que l'énergie, ça doit bien être mécanique ou bien est-ce que devrait être la température du corps. Il y a plein de sujets sur lesquels il faut se poser des questions et on est dans une ère où ces questions se posent réellement et où on est prêt aussi à remettre en question la montre mécanique, bien qu'on sait que c'est inévitable que oui, la montre mécanique. Et c'est souvent quand vous regardez, quand vous voyez les gens quand ils achètent une montre mécanique, eh ben ouais, il y a ce fameux tic-tac qui fait que ça crée des émotions et puis que les gens ils achètent. Ceci dit, et je le répète aussi, on se trouve un tournant. Il faut se reposer des questions si on est vraiment sur le bon chemin. Déjà seulement de ce point de vue qu'il faut être prêt, il faut être innovateur. Et ce que je constate aussi souvent dans les projets qui sont très innovateurs, c'est pas forcément le succès, c'est une chose, mais ce qui est très important, et quand je vois souvent ces projets qu'on fait, et même je peux m'imaginer même cette montre atomique, c'est pas forcément la montre qui va peut-être nous porter. Mais c'est les retombées aussi. Il faut aussi penser qu'il y a des retombées de ces produits qui peuvent avoir des retombées. Alors maintenant, ça peut être horloger, ça peut être, comme ça a été dit, ça peut être dans la partie médicale, ça peut être dans tout autre domaine qu'on n'a même pas encore imaginé. Mais ça a des retombées. Et ce que moi, je favorise, ça crée de l'interdisciplinaire entre les gens. Vous faites travailler. Des électroniciens, vous faites travailler des mécaniciens, vous faites travailler des gens qui sont spécialistes dans le magnétisme, vous faites travailler des gens qui viennent de domaines très variés. Et c'est ça qui fait que vous pouvez peut-être, et c'est ça qui va faire qu'on va peut-être une fois développer des produits qu'on sait même pas encore aujourd'hui. Alors c'est cet aspect-là aussi qu'il faut prendre en compte. C'est toutes ces innovations. Ok, c'est bien, on peut aller sous la mer, on peut faire des choses, on peut lancer des fusées et tout. Mais il faut savoir aussi, c'est quand on se rappelle quand les Américains sont allés sur la Lune, eh ben ça a eu des retombées. Alors c'est bien joli d'aller sur la Lune, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous sur Terre, ben ça a eu des retombées, hein, ça. Et puis on en vit encore aujourd'hui de ces retombées. Et c'est cet aspect-là aussi que je trouve important à mentionner. C'est toutes ces parties. On travaille sur un but, mais en cherchant, on trouve d'autres choses. Et en recherche, on trouvera autre chose. Et que ça soit maintenant l'horlogerie, tant mieux. Ben ça peut aussi avoir autre chose, hein, sachant que dans la montre mécanique, ben on utilise aussi des composants et ces composants-là ont été utilisés pour d'autres produits. Et ça, c'est une partie importante qu'il faut aussi prendre en considération. C'est en cherchant et en travaillant et en innovant qu'on va redécouvrir d'autres choses. Et c'est ça qui est primordial. Et n'oublions-le pas, il ne faut pas l'oublier aussi. Hein. Notre seule ressource en Suisse, c'est le savoir. Nous, on détient, on n'a pas de ressources naturelles. Nous, on doit vivre de notre savoir. Et le savoir, c'est ça qui va créer de la richesse en Suisse, et surtout dans le canton de Neuchâtel, dans lequel je vis maintenant. Mais c'est très important, cet aspect-là. Et ça, il faut bien le voir. Il faut bien le voir devant nous. Et il faut vraiment aller d'avant. Et puis, je répète, hein, aussi l'aspect formation, hein, formation, la formation des jeunes, et surtout aussi aux sciences. Hein, c'est surtout aujourd'hui, hein, c'est un petit manque. Hein, les gens vont bien faire d'autres choses parce que les sciences, ben, c'est quand même un effort à faire, mais qui est important, qui fait qui peut contribuer à des nouveaux produits qui vont enrichir nos industries et le pays.
Est-ce que, oui, alors deux questions. Oui, alors monsieur et après monsieur derrière. Ici, voilà, juste derrière toi. Oui, monsieur avec. Devant. Toi. Et puis après, monsieur derrière.
Entendu. Monsieur Stroman, moi j'ai l'impression, en vous entendant, que. Alors j'aimerais pas vous manquer de respect, hein, mais j'ai l'impression que vous, votre position, c'est. Bon, on va regarder ce que fait Apple, on va regarder ce que fait Samsung. Vous en portez une, Apple Watch, vous avez même trouvé que c'était chouette. Et puis que vous dites, bon, qu'est-ce que diable on pourrait faire, nous, horlogers suisses, parce que vous partez de l'idée d'un présupposé qui consiste à dire la montre connectée va remplacer la montre mécanique. Est-ce que ce ne serait pas simplement une cohabitation? Parce que, comme vous, j'ai une montre connectée et j'ai une Audemars Piguet.
C'est une très bonne remarque. Alors, je vais vous donner un exemple. On a réfléchi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 2 ans en arrière, au SIHH, la marque Montblanc a sorti aussi un module connecté. Mais ils avaient combiné ça avec une montre classique, une montre mécanique. Quand vous la regardiez, vous aviez une montre mécanique devant vous et vous aviez dans la boucle la partie connectée. Voilà, pour vous donner un exemple d'un mariage qui pourrait se créer.
Un des mariages. Alors, peut-être que c'est aussi l'idée d'une marque de luxe. Il est inhérent aux montres connectées qu'elles ont une durée de vie courte. Il faudra remettre à jour les logiciels. Un jour, vous en avez ras la casquette. Enfin, voilà. On sait la durée de vie des objets informatiques. Ça va être du même ordre. Donc, c'est bien joli. Une montre connectée à 10 000 francs pour monsieur tout le monde, ce n'est pas tout à fait son ordre de grandeur au niveau du budget. Hein. Donc, en fait, qu'est-ce que vous faites pour monsieur tout le monde?
Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Là, j'espère de l'aide de mes collègues.
Alors, mais... clairement, il y a des choses qui se font. Il y a des brevets en cours. Et le fait d'intégrer la fonction, on va dire gadget, j'exagère un petit peu en disant gadget, mais la fonction informatique qui sera rapidement obsolète, dans une partie amovible de la montre. C'est des brevets qui ont été posés tout récemment, notamment par un fabricant de bracelets, par exemple Cornu, qui est à La Chaux-de-Fonds, qui a développé un petit module qui peut se pluguer ici, au niveau de la tâche. Donc, vous conservez une montre de luxe mécanique, mais vous avez la fonction montre connectée qui va se cacher ici, et peut être changé aisément. Donc ça veut dire que si dans 5 ans, ces fonctionnalités sont obsolètes parce que le système d'opération, etc., ne correspond plus, ben vous n'avez qu'à retirer ce module, en acheter un nouveau si vous voulez, ou pas du tout. Donc il y a des réflexions pour allier l'un et l'autre, mais comme vous dites aussi, ça peut être une coexistence qui physiquement, elles sont séparées. Vous avez une montre pour le soir, pour sortir, et une montre connectée, mais... si vous voulez monitorer ce que vous avez consommé en calories, c'est mieux de l'avoir aussi le soir, hein, assurément. Parce que... Donc, voilà. Non, ouais. Donc, il y a des brevets qui sont déposés en Suisse, il y a des travaux qui se font entre les horlogers traditionnels, peut-être d'autres personnes qui essayent d'être plus novateurs, mais c'est très difficile de percer, parce que comment va réagir le marché, comment va réagir l'acheteur? Et ça, c'est la grande inconnue, et en ce sens-là, je vous suis, il y a une période d'observation, pour voir comment réagit le consommateur.
Oui, il y avait une question derrière, monsieur Claudine. Question derrière.
Merci. Non, la question aussi, c'est qu'enfin, il y a une sorte de monde imaginé par la technique. Si on pense à la portabilité, on connaît depuis le XVIIIe siècle, enfin, cette... tentative de, par exemple, créer des cannes à système remplies d'objets qu'on pourrait utiliser pendant la promenade. et qui était présenté par les inventeurs comme une transformation des manières de vivre. Mais enfin, on pourrait même s'imaginer qu'on arrive à un effet de couteau suisse. Vous savez, on a le couteau suisse avec 40 fonctions. D'une part, d'un point de vue technologique, on pourrait dire waouh, ça nous permet de résoudre un tas de problèmes. Mais enfin, le couteau suisse qui a son marché, qui a le plus de marché, c'est le couteau suisse à 5 ou 10, 10 lames. Donc il y a quand même, comment dire, l'innovation produit un discours et imagine des mondes. Puis, en tant qu'historien des techniques, on voit que les usages des techniques sont encore une autre chose. Et je me rends compte de la prudence, je comprends la prudence de l'industrie lorsque, enfin, on n'est pas seulement à un niveau de l'innovation, mais à un niveau du marché de la consommation, et donc à un niveau des usages des dispositifs, et donc à un niveau culturel des appropriations des dispositifs techniques, comme la montre. On la montre, on l'a vu, les Japonais ils avaient déjà fait ces montres quand j'étais enfant, avec le calculateur, la télé, toutes ces choses, n'ont pas marché. Donc, je pense que la réflexion, peut-être c'est aussi la contribution des histoires et des techniques, la réflexion, ce n'est pas seulement au niveau du travail technique ou technologique de l'innovation, mais aussi celui d'intégrer en quelque sorte une réflexion technique des usages qui permet à l'industrie en quelque sorte, puis il y a toujours du risque, on est d'accord, mais en quelque sorte d'assumer aussi qu'est-ce que font les gens, les appropriations des dispositifs techniques. Et je pense que dans ce domaine-là, il y a la possibilité aussi de collaborer. Voilà.
Donc, en quelque sorte, intégrer plus des personnes ethnologues, sociologues, capables effectivement de mieux interpréter ce qu'est et ce que pourrait être le comportement des consommateurs. Alors, il y a un mot anglais qui couvre un petit peu ça, qui est le mot marketing. J'exagère un petit peu, mais c'est pas loin, et je pense que votre réflexion est parfaitement exacte. Dans cette grande période d'incertitude, c'est pas forcément le rationnel technique qui va prévaloir, et je pense que votre réflexion est particulièrement pertinente. On aurait peut-être besoin de s'adjoindre les compétences de personnes qui sont plus dans le domaine de la sociologie, du comportement des personnes, de la réactivité, de la réaction des gens, et comment analyser tout ça. Parce que si on veut être proactif, on peut pas se contenter d'observer. Et là, c'est peut-être nous, on a le cerveau formé par les physiciens ou les ingénieurs de manière rationnelle, on raisonne rationnellement, mais on est certainement dans l'irrationnel pour beaucoup de comportements de l'homme vis-à-vis de ses objets. Et on le voit avec les voitures, hein. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout simplement une simple voiture à 5000 francs ou 10 000 francs, on saurait les produire, mais non, c'est tout autre chose. Donc là, on se trouve vraiment dans ce domaine-là. Et face à cette incertitude, peut-être que là, l'Université de Neuchâtel est peut-être aussi bien placée, parce qu'il n'y a pas que des chaires techniques à l'Université de Neuchâtel, et peut-être qu'on devrait plus dialoguer avec d'autres chaires, avec d'autres compétences.
On fera tout à fait passer le message, mais que vous voulez rajouter quelque chose, Gaetano?
Bon, je trouve que ces remarques très pertinentes... Si on reste quand même dans le domaine technique, hein, déjà là, je trouve qu'il ne faut pas non plus trop en demander aux industriels. Moi, je suis un peu frustré parfois lorsque mes travaux n'aboutissent pas chez un industriel, donc, où l'industriel est frileux, on va dire. N'est-ce pas? D'un autre côté, on doit tous être conscients qu'entre la découverte au laboratoire ou la démonstration, première démonstration, et le produit et la pénétration du marché, etc., il y a un immense chemin à faire, des besoins de moyens, etc. Donc, dans un premier temps, déjà, si au niveau technique, on bénéficiait plus de plateformes où les différents intervenants, même locaux, recherche fondamentale, peut-être l'Université de Neuchâtel, recherche un petit peu plus appliquée, le CSEM, la Haute École Arc, enfin tous les intervenants qui sont là pouvaient ensemble réfléchir déjà du point de vue technique à faire mûrir entre guillemets le produit pour amener quelque chose qui est déjà un petit peu plus mûr chez l'industriel. Puis alors effectivement, pourquoi pas ne pas limiter ce dialogue, cette plateforme à des contenus techniques, mais aussi à des contenus psychologiques et sociaux. Je trouve que ça, c'est une excellente idée. Donc peut-être faudrait ajouter cet ingrédient, notamment à la discussion qui se fait actuellement concernant le pôle d'innovation de Neuchâtel. Peut-être qu'il faudrait qu'on y mette aussi un petit peu de composantes non techniques.
Il y a encore une dernière question dans la salle. Alors, en guise de conclusion, peut-être que je vais vous demander très brièvement à chacun d'entre vous, ce serait quoi la montre de vos rêves actuellement ? Aujourd'hui, maintenant, à quel type de montre rêvez-vous ?
Bon, il est bientôt 7h30, j'ose commencer de rêver, je vais me mettre à rêver. Non, mais le concret, peut-être, et ça peut être répondre à monsieur qui a posé la question. Le problème, oui, c'est des trucs tout de base. Hein. Posez-vous une fois la question, est-ce que vous savez mettre votre montre à la date ? C'est un truc tout bête. Hein, mais est-ce qu'on sait mettre sa montre à la date ? Est-ce qu'on sait que l'aiguille des heures fait 2 tours par jour ? C'est des trucs tout basiques. Hein, ça vous paraît, ça vous paraît tout simple ? Mais je suis en permanence, hein, ça m'arrive couramment, une fois ou deux fois par semaine, à mettre l'heure aux gens, hein, parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'après, il faut aussi mettre la date. Il faut savoir que l'aiguille tourne 2 tours, et puis au deuxième tour, ben, à minuit, elle devrait faire le saut de date. Hein. C'est des choses toutes simples, mais vous voyez, c'est ça que peut-être qu'on devrait rêver. C'est une montre à laquelle on l'achète et après, vous ne faites plus aucune modification. Vous la mettez jusqu'à la fin. Vous n'avez plus la mettre à l'heure, vous n'avez plus la mettre à la date. Peut-être une petite manipulation de temps en autre quand vous allez en vacances avec le fuseau horaire pour changer la date, mais ça s'y tient, ça. Et puis que vous n'avez plus la mettre à l'heure parce qu'elle fonctionne toujours. C'est peut-être ça le rêve, hein, sur lequel on travaille, ou bien qu'il faudrait travailler dessus. Et c'est ça, peut-être. Hein. Ça, c'est peut-être ma montre de rêve. Hein.
Fabien Drault. Merci.
Alors, complètement irrationnel, la montre de mes rêves, c'est simplement la montre calée sur la Lune. Une bonne montre mécanique, absolument résistant à tout. J'ai toujours pas pu me la payer, mais comme quoi, vous voyez, on a beau faire la technologie, ça reste complètement de l'émotionnel.
Et de la Lune ? Où est-ce qu'on part ?
Non, moi j'adore les montres où on voit le mouvement mécanique. Je trouve ça d'une beauté fantastique. Mais naturellement, ce que je souhaiterais, ce serait de voir un jour une montre au poignet où on voit pas que le mouvement mécanique, mais aussi un petit phénomène physique profond. Par exemple, un atome qui absorbe un photon de lumière, le réémet, un autre atome, son voisin, qui le réabsorbe, etc.
Ouais, c'est un beau
Puis qui donne l'heure. Ah oui, j'allais oublier, qui donne l'heure accessoirement, mais bon.
Excellent programme marketing en perspective. Donc voilà, on arrive au terme de cette discussion, de ce café scientifique. Je vous remercie d'y avoir participé. Je vais juste me chercher un petit programme pour vous annoncer le prochain. Donc ça aura lieu le 20 avril et nous parlerons d'un tout autre sujet. Ce sera un sujet assez grave, le rapt parental d'enfants et que faire en cas de conflit justement entre les parents et est-ce que la médiation pourrait apporter une solution en cas d'enlèvement d'enfants par un des parents. Voilà, donc d'ici là, bien, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Pâques. Et puis, je vous donne rendez-vous au 20 avril. Oui,
je me permets d'annoncer, pour ceux qui ne le sauraient pas, que le samedi 23 avril aura lieu la journée porte ouverte de la Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel, avec entre autres le laboratoire temps fréquence et plusieurs horloges atomiques et laboratoires sur les horloges atomiques. Donc, si vous voulez approfondir, voir et toucher une horloge atomique...
Voilà, vous pouvez vous servir sur les tables, vous avez le programme détaillé. Et vous avez aussi, j'en profite, une, aussi une autre discussion qui sera très intéressante, organisée par l'Université de Neuchâtel. C'est l'écrivain, poète et essayiste Salas Tétier qui va donner une conférence le 5 avril, donc très bientôt, sur la Méditerranée, des réflexions autour de l'histoire de la Méditerranée. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je remercie encore nos intervenants. Je remercie... Je remercie encore, jamais assez, Roland Amsler à la technique qui assure le son impeccable toujours de ses cafés. Et vous pouvez réécouter ça dans quelques jours sur la page web de nos cafés scientifiques. Merci beaucoup et bonne soirée et au 20 avril.